Le journal Loïc Barrière. La France doit faire face à une pénurie de sang. Les réserves sont au plus bas. Pour la première fois de son histoire, l'établissement français du sang publie un bulletin d'urgence vitale. Entretien avec le docteur Brice Porot, responsable des collectes dans le Rhône. En France, une loi de reconnaissance et de réparation pour les harkis et leurs familles. Réaction dans ce journal de Fatima Benassi-Lancou, cofondatrice de l'association Harkis et Droits de l'Homme. Et nous reviendrons sur l'anniversaire du drame du métro Charonne lors de la guerre d'Algérie avec l'écrivaine et réalisatrice Oria Saïhi. En Libye, un nouveau Premier ministre désigné par le Parlement. Une manifestation à Tunis des avocats et des magistrats pour dénoncer la décision du président Saïed de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature. L'établissement français du sang lance un cri d'alarme. Les réserves de produits sanguins sont en dessous du seuil de sécurité depuis plusieurs jours. L'établissement français du sang évoque une situation d'urgence vitale. L'organisme appelle au don du sang. À noter que le pass vaccinal n'est pas demandé pour donner son sang. Entretien avec le docteur Brice Porot, responsable des collectes au sein de l'établissement français du sang du Rhône.
Actuellement, au niveau national, l'état des réserves est critique. Je rappelle que pour pouvoir réaliser les transfusions, nous avons besoin de 100 000 poches et que actuellement, il y a près de 30 000 poches qui sont manquantes. Donc, c'est une situation inédite.
Comment l'expliquez-vous, cette situation inédite aujourd'hui en France ?
Eh bien, depuis 2 ans maintenant, avec la crise sanitaire, nous avons eu des difficultés, notamment à maintenir le niveau de collecte nécessaire. Par exemple, les collectes en entreprise ou encore les collectes en université ou en école, puisqu'avec la mise en place, par exemple, du télétravail ou encore du distanciel, eh bien, nous n'avons pas pu toucher les donneurs comme nous le faisions habituellement.
Et vous tenez à rappeler que le pass vaccinal n'est pas demandé lors d'un don de sang.
Alors, tout à fait, hein, lors de l'organisation de nos collectes ou encore sur les maisons du don, le pass sanitaire n'est pas obligatoire, il n'est pas demandé.
Quelle action menez-vous pour encourager les citoyens à aller donner leur sang ?
Eh bien, je rappelle que aujourd'hui, hein, pour les patients qui nécessitent une transfusion, il n'existe pas de produit de substitution. C'est vraiment par la mobilisation de tous nos donneurs que nous pouvons réaliser l'acte transfusionnel. Donc, nous avons apporté eh bien un offre de collecte, puis également nos maisons du don qui permettent d'accueillir nos donneurs.
Alors concrètement, une personne qui vous écoute, qui souhaite donner son sang, que doit-elle faire, notamment pour savoir où se rendre ?
Alors n'hésitez pas à aller sur le site internet dondesang.efs.sante.fr sur lequel vous allez pouvoir retrouver les collectes à proximité de votre lieu d'habitation ou de votre lieu de travail. Une offre de collecte qui est notamment sur rendez-vous, donc n'hésitez pas.
Et aujourd'hui, quelles sont les conditions pour donner son sang ?
Alors les conditions, je le rappelle, il y a un âge limite, il faut avoir 18 ans au minimum pour pouvoir donner son sang. Il y a un poids également, il faut peser à plus de 50 kilos. Et puis également des situations qui seront vues lors de l'entretien avec le médecin, qui peut être lié à des prises de médicaments, ou des pathologies ou des retours de voyage par exemple.
Vous êtes le responsable des collectes dans le Rhône. La situation dans les départements du Rhône reflète la situation nationale ?
Pas tout à fait. C'est vrai que dans le département du Rhône, la mobilisation des donneurs a pu se maintenir par rapport à d'autres régions. Mais je rappelle que cette mobilisation, elle doit être vraiment dans la durée. C'est vraiment primordial puisque nos besoins sont quotidiens au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je rappelle que ce sont 1400 dons par jour qui sont nécessaires et au niveau national, ce sont 10 000 dons par jour.
Brice Porot, responsable des collectes au sein de l'établissement français du sang du Rhône, il répondait à François-Xavier de Calonne. En Libye, le Parlement a désigné l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bachaga pour remplacer Abdelhamid Dbeiba à la tête du gouvernement. Celui-ci avait pourtant fait savoir qu'il ne céderait le pouvoir qu'à un gouvernement issu des élections. Avant ce vote, la voiture de l'ancien Premier ministre a essuyé des tirs à Tripoli, mais il n'a pas été touché. En Tunisie, des centaines de magistrats et d'avocats ont manifesté ce jeudi pour protester contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature, une décision prise par le président Kais Saied. Le rassemblement a eu lieu devant le palais de justice à Tunis. L'Union européenne va développer un partenariat avec le Maroc sur les questions écologiques. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'occasion de sa première visite dans le Royaume. Un partenariat qui concernera le secteur de l'énergie dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Une loi pour reconnaître le rôle des harkis 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi qui prévoit la reconnaissance de la nation et la réparation des préjudices subis par les harkis et leurs familles. Le texte doit maintenant être adopté par le Sénat la semaine prochaine. Je vous propose d'écouter Fatima Benassi Lankou, docteur en histoire, spécialiste de la guerre d'Algérie et cofondatrice de l'association Harkis et Droits de l'Homme. Selon elle, le texte de loi est très décevant.
Pour moi, ce texte n'est pas à la hauteur de la promesse du président de la République qu'il a faite le 20 septembre dernier. Il y a eu des mots extrêmement forts comme la demande de pardon et puis une promesse de mettre en place rapidement une loi. Et cette loi, donc, effectivement, elle est passée dans les deux chambres, hein, donc elle est passée entre les mains des parlementaires. À mon sens, elle n'est pas à la hauteur, voilà, de ce qui était attendu. Et elle va concerner peu de personnes. Si c'est une loi qui devait apporter un apaisement, à mon avis, elle ne va rien apporter du tout. Puisque elle va laisser tant de personnes avec un sentiment d'injustice, des personnes qui ont quitté précipitamment leur pays en 1962, des personnes qui ont souffert aussi. Et voilà, ça va laisser un sentiment d'injustice et c'est dommage pour la collectivité nationale. Vous savez, laisser des gens malheureux comme ça, c'est jamais bon, c'est bon pour personne, ni pour les personnes laissées au bord de la route que pour les autres.
Et le fait que la France reconnaisse sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 62 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie, est-ce que ces mots sont apaisants et suffisants pour vous?
Je vais parler plutôt de la collectivité, hein, de l'ensemble en tout cas de ce groupe. Non, bien évidemment que non. Non. Il a fait un pas qui nous avait semblé un pas de géant, mais en fait non. Quand on y regarde maintenant de près, laisser autant de personnes, sur le plan humain, c'est pas supportable, quoi.
Qu'est-ce que vous auriez souhaité, Fatima Benassi Lankou?
Écoutez, au moins que toutes les personnes rapatriées en 1962 et leurs enfants rapatriés avec eux soient concernés par cette loi. Voilà. Donc ça c'est le minimum et c'est peut-être la chose la plus acceptable, même si je pense qu'il faudrait aller encore plus loin, mais voilà, ça c'était qu'elle concerne toutes les personnes rapatriées. Voilà, ça c'est. Mais qu'on en laisse comme ça, qu'on fasse un tri, il y en a un qui est passé là, dans un camp, l'autre pas, ou dans une cité, ou pas, etc. Enfin, c'est pas supportable. Parce qu'une famille peut avoir tout perdu en 1962, avoir des membres de leur famille qui ont pu être massacré pendant l'été 62, avoir été persécuté et en arrivant en France, ne pas avoir été mise dans un camp. Et c'est pas pour ça que cette famille-là n'a pas souffert. Le critère, c'est d'être passé dans un camp. Bien sûr, bien évidemment que c'est scandaleux. Il y a des personnes qui ne sont pas passées derrière les fils barbelés, qui ont été persécutées parce que abandonnées en Algérie par les autorités françaises, qu'elles n'avaient pas reçu la protection donc de l'armée française, puis des civils français. Enfin, voilà. Donc sans protection, il y a beaucoup de familles qui ont souffert. Et le fait qu'elles ne soient pas passées par un camp. On leur dit, écoutez, vous n'allez pas être concernés par cette loi parce que vous n'avez pas souffert. Mais enfin, de quel droit? Comment est-ce qu'on peut juger qu'une personne a souffert ou pas?
Fatima Benassi Lankou, cofondatrice de l'association Arki et Droits de l'Homme, elle répondait à François-Xavier de Calonne. Le 60e anniversaire du drame du métro Charonne à Paris, le 8 février 1962, 9 travailleurs syndiqués à la CGT, dont 8 étaient membres du PCF, ont été tués par les brigades spéciales de police. Elles participaient à une manifestation pacifique pour le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Le chef de l'État a rendu hommage aux victimes. À l'occasion de cet anniversaire, un rassemblement a eu lieu mardi soir au métro Charonne. En présence de représentants de la CGT et du Parti communiste, parmi les personnes qui ont assisté à ce rassemblement, l'autrice et réalisatrice algérienne Oria Saï.
Je suis algérienne, je suis une enfant de la guerre et je sais ce que c'est que la guerre. Et surtout aussi le prix payé par le peuple algérien et aussi les Français qui se sont solidarisés, entre autres les syndicalistes de la CGT et le Parti communiste français. Donc être présent, c'est aussi, donc, comme je le disais, c'est entretenir la mémoire, c'est contre cet oubli. Et puis aussi, il faudrait que ces martyrs soient reconnus en tant que tels. La vérité, jusqu'à présent, n'a pas éclaté. Chacun, je parle du pouvoir, je ne parle pas de... Et aussi, situer les responsabilités, certains parlent de la police. Or, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement. Il ne faut pas se cacher, comme le disaient les orateurs, ils disaient qu'il ne fallait pas se cacher derrière la police. Donc, l'État doit reconnaître sa responsabilité dans l'assassinat de ces 9 personnes, dont 8 communistes. Il y a une rescapée, une seule rescapée. Donc 9 personnes ont péri pour que l'Algérie vive, pour que cette indépendance ait lieu.
Sur cette reconnaissance que vous attendez, avez-vous le sentiment que les choses avancent quand vous lisez notamment ce communiqué du chef de l'État français ce mardi qui a rendu hommage aux victimes et aux familles des victimes? Et c'est la première fois qu'un président de la République rendait hommage aux victimes du 8 février 1962.
Écoutez, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que les familles attendent toujours. Il y a ce que j'ai lu, ce que j'ai... Moi, je suis algérienne, donc je ne suis pas une pièce rapportée. Je vis, c'est-à-dire ce qui se passe, je sais ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, quand j'étais de l'autre côté, et ici. Les familles continuent à réclamer. La CGT continue, le Parti communiste français continue à se battre pour que, justement, la vérité soit dite, la vérité soit actée jusqu'à présent. Rendre hommage, c'est une bonne chose. Déposer des gerbes de fleurs ou une gerbe de fleurs, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut se battre contre l'oubli et une trahison aussi en même temps. Voilà. Et oui, c'est une trahison. Ça fait partie de l'histoire, pas simplement du peuple français, mais aussi la mémoire des Algériens aussi, de cette Algérie qui s'est battue et donc voilà.
Vous êtes ce soir au métro Charonne, 60 ans après ce drame. Que ressentez-vous ?
Bah écoutez, beaucoup d'émotions. D'abord, c'est la première fois que je viens. C'est la première fois que je suis au milieu de syndicalistes. Vous voyez, ce sont des personnes, pas toutes jeunes, il y a moins de jeunes, mais en tout cas, ce sont des personnes qui ont vécu avec la même émotion ce rassemblement à la mémoire des victimes. Et il faut aussi le lier à cela avec ce qui se passe en France, c'est qu'on fait tout pour effacer cette mémoire. Et c'est important de le dire et ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à entretenir la mémoire et il faut que ces martyrs soient reconnus, ces personnes qui ont été sacrifiées.
L'autrice et réalisatrice algérienne Oria Saï, interrogée par François-Xavier de Calonne. En Arabie Saoudite, 12 civils blessés dans une attaque de drones des rebelles houthis contre l'aéroport d'Aba. Les victimes sont de plusieurs nationalités. Le drone a été détruit par l'armée saoudienne. En France, le préfet de police a décidé d'interdire le convoi de la liberté, ce rassemblement annoncé pour vendredi à Paris, un rassemblement de véhicules partis de toute la France. Plusieurs cortèges ont quitté Nice, Bayonne ou encore Perpignan. Les organisateurs issus des Gilets jaunes et des antivax veulent bloquer Paris pour dénoncer les restrictions sanitaires. La Belgique a interdit un rassemblement similaire. La justice française refuse d'ordonner l'expulsion du détenu libanais Georges Ibrahim Abdallah, un homme condamné à la perpétuité pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens. C'était en 1987. Ses avocats souhaitaient un arrêté d'expulsion, une étape nécessaire en vue d'une possible libération. Georges Ibrahim Abdallah est détenu depuis 38 ans. Enfin, et si on en parlait, à 19h et 23h, le thème de l'émission du CFCM au Forum pour l'Islam de France, quelle représentation, quelle organisation pour le culte musulman. Les invités d'Alexis Bachelet seront Raleb Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France, et Hakim El Karoui, président de l'Association musulmane pour l'Islam de France. Cette édition est terminée, merci d'être fidèle à Radio Orient.